France Culture. Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. 7 millions d'Honduriens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour l'élection présidentielle dans laquelle Donald Trump s'est immiscé. Nous serons au Honduras en début de journal. Les présidentielles du Chili inquiètent le Pérou voisin. Hier, le gouvernement péruvien a annoncé l'état d'urgence à la frontière, craignant une vague de réfugiés chiliens. Le Salon international du bio ouvre ce matin à Paris dans un contexte difficile pour les agriculteurs, de moins en moins nombreux, faute de rentabilité. L'ombre de Donald Trump plane sur l'élection présidentielle du Honduras, un retour assumé de l'ingérence des États-Unis dans la politique latino-américaine. Cette semaine, le président américain s'est directement immiscé dans l'élection en appelant à voter sans retenue pour son candidat favori, l'homme d'affaires Nasri Asfoura, très à droite et libéral économiquement. Marie-Aimée Copleutre, vous êtes au Honduras. Ce pays d'Amérique centrale de 12 millions d'habitants s'apprête à voter pour son ou sa présidente et fait face à de nombreux défis.
Oui, le Honduras est le pays le plus pauvre de l'Amérique centrale. Dans les bidonvilles de la capitale, Alfonso vit seul dans sa petite maison en tôle.
J'aimerais qu'il y ait du travail. Ce n'est pas comme dans d'autres pays, comme l'Espagne. Ma famille vit là-bas et ils ont dû quitter le Honduras car il n'y avait pas d'opportunité ici.
Brenda est vendeuse ambulante. Elle doit faire face à l'absence de services publics.
J'ai une petite fille de 3 ans qui est handicapée et c'est compliqué car il n'y a pas de lieu public pour la recevoir. Alors elle reste à la maison avec ma fille de 19 ans quand je travaille.
Ni prestations sociales, ni chômage. Quant aux retraites, seules les personnes ayant travaillé dans les services publics en bénéficient. Comme Berta, 70 ans, elle reçoit $180 par mois.
Ce n'est pas suffisant pour vivre, pour payer l'eau et l'électricité. Mais mes enfants m'aident chaque mois et puis je vends des produits de beauté pour la peau pour compléter.
Autre défi, la violence, avec en moyenne 8 homicides par jour, car il existe des gangs organisés appelés les Maras. Fren Lenza a perdu son cousin, tué par balle.
Il était en train de jouer au basket avec un ami. Les jeunes du gang faisaient des rondes et ils ont commis plusieurs actions criminelles. Ils ont agressé quelqu'un et tué une autre personne avant de les tuer eux. Ils avaient 17 et 18 ans.
Une élection avec de forts enjeux, dont le maintien de la démocratie. En 2009, le pays a vécu un coup d'état. Il est sorti de son régime autoritaire il y a seulement 4 ans, avec la condamnation de l'ancien président à 45 ans de prison aux États-Unis pour narcotrafic.
Un président que Donald Trump souhaite gracier et sortir de prison en cas de victoire de son candidat favori à la présidentielle aujourd'hui. Hier, la candidate de gauche à la présidentielle, Rixi Moncada, a dénoncé les actions d'ingérence de Washington, notamment la grâce de l'ancien président Hernandez. C'est un délit, dit-elle. Donald Trump, qui a aussi averti hier soir que l'espace aérien du Venezuela était entièrement fermé, sans donner plus de détails. Le président américain accuse Caracas d'être à la base du trafic de stupéfiants qui inonde les États-Unis. De son côté, le gouvernement de Maduro dénonce un acte hostile de la part de, je cite, la menace colonialiste et a lancé des manœuvres militaires. Des opérations militaires également à la frontière entre le Pérou et le Chili. Le gouvernement péruvien a annoncé hier l'état d'urgence dans la zone, inquiet d'une vague de réfugiés venant du Chili voisin. Le candidat favori à la présidentielle, José Antonio Kast, a promis d'expulser tous les migrants illégaux s'il venait à être élu. La correspondance au Pérou de Martin Chabal.
Pour l'instant, ils ne sont qu'une centaine à vouloir traverser la frontière entre le Chili et le Pérou. Mais le président péruvien, José Reilly, très offensif sur le thème de l'immigration illégale, anticipe déjà une crise migratoire entre les deux pays. Crise qui pourrait être déclenchée par l'élection de José Antonio Kast au Chili dans 2 semaines. Candidat qui multiplie les attaques contre les migrants illégaux du pays et leur a d'ailleurs lancé un avertissement leur laissant, je cite, 103 jours pour quitter le pays volontairement. En réaction, le Pérou vient de déclarer l'état d'urgence à la frontière, les forces armées sont déployées et les contrôles d'identité renforcés. Risque réel ou effet d'annonce, pour l'instant le flux migratoire reste normal entre les deux pays et le Pérou n'a communiqué aucun chiffre qui montrerait une augmentation significative des entrées illégales. Mais l'élection présidentielle péruvienne est dans moins de 6 mois maintenant et le thème de l'immigration est déjà au centre des débats de la campagne, souvent associé ici à l'augmentation record du taux de criminalité dans le pays. Le gouvernement péruvien veut donc se montrer très réactif et monte déjà au créneau face à une crise migratoire supposée.
Le second tour de l'élection présidentielle se tiendra le 14 décembre prochain. Au moins un mort et 11 blessés en Ukraine après une attaque de drone dans la capitale cette nuit. La deuxième en deux jours, quelques heures après une attaque de deux pétroliers en mer Noire, revendiquée par Kiev, qui assure avoir touché des navires de la flotte fantôme russe. À la veille des négociations avec les États-Unis pour discuter du plan de paix, Volodymyr Zelensky doit également rencontrer Emmanuel Macron demain à Paris. Voilà maintenant 4 jours que l'incendie dans un complexe immobilier s'est terminé à Hong Kong et des dizaines de familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. L'attente est terrible, plus de 200 personnes sont officiellement portées disparues, même si les chances de les retrouver vivantes sont presque nulles. Reportage sur place de notre envoyé spécial Sébastien Berriot.
Chaque matin, désormais depuis 4 jours, les familles de disparus viennent ici dans ce bureau d'accueil provisoire mis en place par les autorités. Tout le monde est dans le même cas, aucune information sur ses proches. Cet homme d'une quarantaine d'années cherche désespérément sa femme. Fatigué et stressé, il est à bout.
On a demandé de l'aide à la police qui nous a dirigés vers les pompiers. Et quand on a contacté les pompiers, ils nous ont dit d'aller à l'hôpital. Alors maintenant, on ne sait plus du tout vers qui se tourner. Je ne sais même pas si ma femme est morte ou vivante, ni où elle pourrait se trouver. Ça fait 4 jours que je suis assis ici pour attendre des nouvelles.
Il faut attendre que la police inspecte tous les appartements ravagés par le feu. Cette femme est sans nouvelles de sa sœur.
Ni l'hôpital ni le commissariat de police ne disposent d'informations pour le moment. Nous n'avons pas réussi à la localiser à l'aide de sa carte d'identité ou bien de ses anciens dossiers médicaux. La police nous dit qu'elle va bientôt pouvoir mener des recherches porte à porte en collaboration avec l'équipe chargée des tests ADN, car de nombreux cadavres non identifiés se trouvent encore à l'intérieur. J'espère que ce cauchemar prendra fin rapidement.
Juste à côté, un autre homme et lui sans nouvelles de sa femme. Il s'apprête à nous expliquer sa situation, mais une équipe d'enquêteurs vient le chercher au même moment pour identifier un corps qui pourrait être celui de sa femme.
Et pour rappel, 8 personnes ont été arrêtées pour des faits de corruption qui auraient pu causer des failles de sécurité dans la construction des tours de Hong Kong. 9h07, vous écoutez France Culture. Hier soir, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rejeté en nouvelle lecture la partie recettes du budget de la sécurité sociale. L'examen du volet dépenses du texte se poursuit avant une semaine sous tension pour le gouvernement Lecornu. Selon des sources parlementaires, les Républicains ont voté contre la partie recettes, comme l'extrême droite et la gauche. Seuls les socialistes ont voté pour. Le gouvernement Lecornu, qui essaye de rassurer les pharmaciens, inquiète d'une possible pénurie de vaccins contre la grippe. Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, a annoncé hier que des doses supplémentaires de vaccins vont être débloquées. Alors que les agriculteurs bio sont de moins en moins nombreux en France, le grand salon international du bio ouvre ce matin à la porte de Versailles à Paris. Cet événement réservé aux professionnels durera jusque mardi. Tous les secteurs sont représentés, cosmétiques, produits ménagers et bien entendu l'agriculture biologique qui n'a pas le cœur à la fête. Les surfaces agricoles exploités en bio sont en diminution depuis 2 ans. Édouard Marguier, vous avez joint un éleveur laitier. Il a décidé de sortir de la certification bio qui n'est plus assez rentable.
Ronan Le Sommer élève 140 vaches près de Vannes dans le Morbihan. Il vend ses 1000 litres de lait autour de 500 euros. C'est quasiment le même prix que du conventionnel.
Sur l'année, voilà, on va avoir une différence de 40 euros. Clairement, ça vaut plus le coup, hein, mais bon, nous, ça fait un moment qu'on alerte.
Et notamment depuis le Covid, car le nombre de producteurs est trop important face à la demande en baisse, alors que produire du bio coûte toujours aussi cher. Exemple avec l'exploitation de ces champs où il fait pousser du maïs pour nourrir ses animaux.
Vous parlez en désherbage, on va être sur du désherbage mécanique. Quand vous travaillez avec le tracteur, vous faites beaucoup plus de passages, donc vous consommez plus de gasoil. Alors que quand vous faites un désherbage chimique avec un pulvérisateur, ben, vous allez faire 1 voire 2 passage maxi, quoi. C'est un système qui doit avoir ses contraintes, mais il faut qu'il soit rémunéré et aujourd'hui, il ne l'est plus.
Il aura passé 10 ans sous la certification bio, une filière pas assez soutenue selon lui.
Nous, on a un atelier de transformation directe de produits laitiers. Les cantines, elles regardent le prix, quoi. Et il y a certaines qui jouent vraiment le jeu et qui nous font travailler, mais il y a quand même un paquet avec qui on ne travaille pas et qui pourrait nous prendre des produits. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit, quoi.
La loi Egalim impose en effet 20% de produits bio dans les cantines. La part consacrée aujourd'hui est seulement de 13% dans le pays.
Et un mot sur le temps pour finir. La Bretagne est sous le soleil, mais la pluie s'étend au reste de l'Hexagone. Côté température, il fera 6 degrés à Aurillac, 8 degrés à Brest, 10 à Montpellier et 12 à Biarritz. Les journaux de ce matin ont été réalisés par Brice Garcia, Marie-Claire Oumabadi à la technique.